Santé.
C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire,
bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début de semaine. Bon début d'après-midi, Marianne Paquette au micro. Je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes de cette journée bien nuageuse, bien pluvieuse, du moins à Montréal. Pour cette émission, c'est bon pour la santé sur Canal M. Trouver une bonne chaussure de sport qui convient bien à nos pieds, à notre posture, à nos besoins, le sport que l'on fait, également, bien sûr, notre réalité, ça peut sembler assez compliqué, surtout si on est un sportif débutant que l'on connaît plus ou moins ça. Et pourtant, c'est important de rappeler qu'être bien chaussé pour pratiquer une activité sportive, ben, ça peut éviter des blessures à court et long terme. Et afin de prendre une décision bien éclairée sur le sujet, François Lecault, kinésiologue, sera là en deuxième partie d'émission. Il nous guidera à travers l'achat de cette chaussure de sport. Et puis, pour débuter, vous dire que les espaces publics, ça joue un rôle, et parfois on l'oublie, hein, c'est pas si évident, ça joue un rôle très important dans la vie citoyenne. Ça favorise les contacts, ça les rend plus aisés. Et quand ils sont aménagés de façon adéquate, ils peuvent favoriser une plus grande pratique d'activité sportive, d'activité physique. Le projet Espace vise à sensibiliser, à outiller aussi le milieu municipal afin d'offrir des environnements sécuritaires, mieux aménagés aussi pour les jeunes et leurs familles. Et j'en parle davantage avec Michel Gagné, chef du service des sports et du plein air pour la ville de Lévis. Monsieur Gagné, bonjour.
Madame Paquette, bonjour.
Est-ce qu'il fait aussi nuageux et gris à Lévis qu'à Montréal?
Fait gris. En tout cas, il ne peut pas encore, mais c'est sûr que c'est gris. Ça ressemble un petit peu plus à l'automne. On est en alternance de bonnes journées et de journées plus grises.
Peut-être une moins bonne journée pour mettre le bout du nez à l'extérieur, mais on en profite tout de même pour parler du projet Espace. C'est une initiative qui déjà mijote depuis quelque temps, hein, Michel Gagné?
Bien, à l'origine, moi, je suis membre du comité aviseur là, du projet Espace. Je vous dirais que je pense qu'on m'a désigné un peu pour vous parler parce que j'étais un de ceux à l'origine du questionnement qui a amené le projet Espace, en ce sens que moi, je suis responsable du sport et plein air à la ville de Lévis, mais également en 2011, j'ai pris charge des parcs, de l'aménagement des parcs et j'ai soumis quelques questions à l'Association québécoise du loisir municipal sur les normes d'aménagement, les pratiques et les façons de faire de façon à optimiser ces espaces-là. Puis au fil, donc, ça a commencé en 2011 et dans l'année qui a suivi, il y a plusieurs autres intervenants de loisirs qui ont manifesté un peu les mêmes questions et c'est ce qui a amené au dépôt à Québec en forme en 2013 là, du projet Espace.
C'était quoi ces questions-là, Michel Gagné? Le constat, en fait, qui a mené vers la mise en place du projet Espace?
Bon, c'est sûr que quand on questionne un peu, quand on regarde, là, ça part du fait de, que dans le mandat des villes, c'est d'essayer de donner les équipements et les espaces les plus favorables à la pratique de l'activité. Alors, si on considère qu'au fil des dernières années, la pratique libre a pris beaucoup d'importance, si on considère qu'on va faire des quartiers qui sont très intéressants au niveau des populations, rendre ça accessible aux gens, bon, on doit se questionner sur nos principaux espaces qu'on met à la disposition des gens, outre les pistes cyclables et autres équipements, qui sont les parcs. Et moi, je trouvais que nos parcs étaient assez chargés, étaient surtout composés de modules, de structures de jeu qui ont leur utilité, mais je concevais mal qu'on puisse pas y pratiquer des activités de ballon ou des plus le jeu libre et la pratique libre quand les familles allaient dans les parcs. Et c'est ça que je questionnais un petit peu.
Mais en fait, ça venait aussi d'un double constat, c'est-à-dire qu'au Québec, les jeunes, les enfants ne bougent pas assez. Après ça, on fait comment pour les faire bouger davantage? OK, il faut qu'il y ait des espaces aménagés, mais le sont-ils vraiment au Québec?
Effectivement. Est-ce que c'est optimal? Est-ce qu'ils sont accessibles aussi en termes de déplacement à pied, en vélo? Est-ce que la localisation de ces parcs-là est optimale? Est-ce que la concertation avec le scolaire municipal donne de bons résultats? Et est-ce qu'on est limité seulement qu'à une utilisation estivale? Est-ce qu'on tient en compte également une utilisation hivernale?
Oui, c'est assez intéressant tout ça. Et à savoir aussi, des fois c'est bien beau, il y a des modules dans les parcs, dans les cours d'école, mais il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'enfants qui y sont après l'heure du souper ou, bon, comme vous le disiez, en période hivernale. J'imagine que les élus ou les gens comme vous qui sont en place pour le plein air, les sports, des municipalités doivent s'interroger là-dessus.
Tout à fait. Et même maintenant, on a même des ententes au niveau scolaire pour des utilisations, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Dans nos petits parcs de voisinage, ce sont beaucoup les garderies à domicile qui sont les utilisateurs. Donc, nous, on fait même en sorte que certaines plages scolaires soient quand même en dehors des récréations, soient faire en sorte que ces cours d'école-là, si nous, on y investit, comme ville, puissent être accessibles à certaines périodes.
Mm-hmm.
Parce qu'il faut s'agir de se promener, là, je vous dirais, à l'année, vraiment, les services de garde également, là, sont de gros, en milieu familial, sont de gros utilisateurs de nos parcs.
Ben oui, j'imagine. Michel Gagné, c'est quoi les besoins d'une population? Évidemment, vous ne pouvez pas parler pour la totalité de la province, mais à Lévis, par exemple, les familles ont besoin de quoi?
Bien, si on prend pour acquis que les activités encadrées étaient déjà assez présentes, qui sont sous la responsabilité d'une, comme si on parle de Lévis, d'une quarantaine d'organismes qui vont offrir toute la panoplie qu'on entend de la gymnastique jusqu'à la natation, etc., etc. Bien, nous, dans les dernières années, on a surtout essayé de travailler sur tout ce qui est la pratique libre. Donc, évidemment, notre réseau de pistes cyclables est assez important. On a également fait toutes les parcs de planches à roulettes, parce que c'est pas tous les jeunes qui font des activités encadrées.
Mm-hmm.
Je vous dirais que si on regarde, on a 250 parcs et espaces verts. Résultat de la fusion, hein, parce qu'on est une ville fusionnée en 2002 de 10 anciennes petites municipalités.
Oui.
Donc, le principal, je dirais, défi des dernières années, ça a été de mettre à niveau ces différents parcs-là parce qu'ils n'étaient pas de même niveau dans les différentes villes. Donc, on a investi dans environ 50 parcs par année. Ça, et là, on parle des parcs de voisinage et on a également, au niveau des parcs de quartier où on retrouve plus des équipements sportifs habituels aussi, fait un certain travail. Vous savez, on s'est beaucoup préoccupé également du choix des terrains. Ça, je pense que ça peut être important au niveau des familles qui choisissent sur plan ou qui choisissent au niveau d'un développement, de développement résidentiel, leur maison, de s'assurer auprès du promoteur du fait qu'il y ait un parc, de sa dimension, de sa localisation. Et un coup que cette vérification-là est faite auprès du promoteur puis qu'elle est correcte, moi, je pense qu'il est important de sensibiliser la municipalité à savoir qu'est-ce qui va être mis dans ce parc-là.
Mm-hmm, mm-hmm.
Alors ça, c'était un gros constat aussi de 2011. Vous parlez du questionnement. Je regardais, on avait des parcs d'environ 2500 mètres carrés et qui, une fois qu'on avait effectivement mis un module en place, ne laissait pas beaucoup d'espace. Alors que minimalement, on prend au moins, maintenant, c'est 5000 mètres carrés pour ce qu'on appelle nos parcs de voisinage. Et ceux-ci ils peuvent desservir sur environ un diamètre de 400 mètres autour de la résidence. On a réintroduit des carrés de sable. On a essayé de créer ou de préserver tout ce qui peut être au niveau de la glissade et de la roulade qui peut être préservé. Ce que vous disiez, de quoi les familles ont besoin? Les familles ont besoin de lieux également. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas une butte à Lévis où on ne glisse pas l'hiver. Les gens ont le goût de patiner. On a réinvesti dans notre réseau de patinoires et de ronds de glace. Ne serait-ce qu'en ajoutant une quinzaine de ronds de glace, on a réussi à travailler beaucoup sur la problématique, là, la fameuse dualité là, le petit combat entre le patin et le hockey lorsqu'on était à l'extérieur.
Ouais, mm-hmm.
Les familles veulent des environnements favorables pour leur pratique d'y aller selon leur horaire.
Est-ce que le projet Espace est préoccupé afin de rendre les lieux accessibles à des gens qui vivraient avec des déficiences physiques ou encore des déficiences intellectuelles?
Le projet Espace, quant à lui, a un volet plus global, mais à chaque fois, on travaille sur cette réalité-là. Je vous dirais qu'actuellement, les villes sont... Il n'y a plus de ville qui ne prêtera pas attention à donner la plus grande accessibilité. Actuellement, on parle plus d'accessibilité physique, à savoir, comme je vous disais un petit peu au début, si le parc est situé où dans le quartier, on peut y aller comment de façon sécuritaire,
ouais.
À pied, à vélo, les trottoirs et sa localisation. Quand on arrive au niveau de l'aménagement, malheureusement, je vous dirais que des préoccupations budgétaires, comme je vous dis, quand on en a 250 et qu'on a à remettre des parcs à niveau, à ce moment-là, on est obligé de faire des choix, font peut-être pas à sorte que, par exemple, dans nos parcs de voisinage, on y a d'aménagements vraiment précis pour les personnes vivant avec un handicap, mais il nous arrive, nous, de faire des ajustements partiels et de faire des modifications lorsque les parents nous signalent ce besoin-là. Et ça, je sais encore une fois, c'est assez important que nous, il est arrivé de remplacer des sièges de balançoire pour des sièges adaptés, de faire des sentiers plus formels pour faciliter l'accès en fauteuil roulant. J'entendais une entrevue que vous avez eue avec Mme Bernier, Sylvie Bernier, qui oui. parlait de Chantal Simard et qui maintenant a un enfant et a de la difficulté à avoir accès à ces parcs-là. Donc, il n'y a pas de ville qui ne seront pas prêtes à faire des aménagements particuliers sur des parcs de voisinage étant sensibilisés par les parents. Et au niveau de nos parcs de quartier, maintenant, comme nous, on a pris l'orientation. Maintenant, au moins dans nos trois arrondissements, il va y avoir un parc qui va avoir une zone avec une surface là, plus en caoutchouc pour permettre l'accès en fauteuil roulant. Des jeux qui vont être faits en conséquence. On ne parle pas juste d'handicap physique, hein, on parle de troubles de développement d'apprentissage, on parle d'autisme maintenant. Et ces surfaces-là vont être jumelées à des jeux d'eau. Ce sont des équipements également très, très accessibles là, au niveau du fauteuil roulant.
Et ce qui est important...
C'est une amorce, mais on ne peut plus nier cette réalité-là.
Oui, parce que ce qui est important aussi, lorsque l'on parle de déficience physique, par exemple, c'est que ça peut toucher, bien sûr, l'enfant qui a des besoins d'être actif, mais aussi le parent qui l'accompagne, à savoir, bon, est-ce que le fauteuil roulant se rend près du module pour surveiller l'enfant? Est-ce que c'est possible d'aider mon enfant à se balancer sur la balançoire? Donc, évidemment, c'est vraiment à deux volets. Il y a l'enfant, il y a le parent, et c'est important. Ce que vous dites, Michel Gagné, c'est de un petit peu redonner le droit aux citoyens d'exprimer les besoins. Si un parent se rend compte que le parc de son voisinage n'est pas accessible, soit pour lui ou pour son enfant, qu'est-ce qu'il peut faire auprès de sa municipalité?
Bien, si on parle de municipalité, je dirais là, moyenne ou grosse, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de villes qui n'ont pas ce qu'on appelle un service clientèle. Mmh. Alors, en appelant à la ville, en demandant un service clientèle, ou en écrivant, parce que souvent, il y a des emails aussi qu'on peut avoir par le site de la ville. Alors, ces demandes-là, qui nous, on traite souvent sous forme de demandes de service à la clientèle ou encore requêtes, sont acheminées aux différents services. Et si je vous donne l'exemple de Lévis, bien, nous, on a 48 heures pour apporter un suivi à une demande d'un citoyen pour amorcer un dossier. Alors, je crois que la majorité des grandes des villes de moyenne et de grande importance ont maintenant un service de ce type-là. Et quand on est dans un petit milieu, en tout cas, plus petit milieu, bien, la proximité et la proximité est encore plus facile avec l'hôtel de ville ou encore avec le comité des loisirs ou encore avec l'élu qui traite le dossier. Là. Donc, je pense que les gens n'ont pas à craindre de revendiquer et puis de demander aux gens puis d'entrer en contact pour exprimer les besoins. Là, on va la traiter en fonction de l'ordre de grandeur ou des échéanciers, mais il y a une ouverture nécessaire qui nous est demandée par nos politiciens, puis nous-mêmes, on conçoit qu'on est là pour desservir l'ensemble de la population.
On le disait tout à l'heure, M. Gagné, le projet Espace a été mis en branle en 2011. On se donne jusqu'en 2016 pour effectuer des actions bien concrètes. Il y a 8 projets pilotes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, je voudrais juste préciser, c'est sûr, nos discussions ont commencé en 2011, mais Québec en forme a reconnu le projet en 2013.
Mm-hmm,
donc,
okay.
C'est un projet triennal.
Juin 2013,
hein? Mm-hmm. On est une quinzaine de partenaires autour de la table, et là, je veux pas faire peur aux gens avec l'idée de c'est tous des ministères ou des associations, mais on dirait que l'Association québécoise d'oiseaux publics a su regrouper des gens qui avaient déjà une sensibilité puis une expertise autour de cette question-là dans leur région ou dans leur secteur, parce que c'est sûr, quand on parle d'architecte du paysage, quand on parle de responsables comme le Conseil québécois du loisir ou le Conseil du sport de loisirs en Estrie, et on a les gens des services sociaux, on a les gens également qui faisaient toute la sécurité. Ça, c'est le premier noyau de travail avec quelques villes autour. Et ce noyau-là va procéder à l'élaboration d'un cadre conceptuel. Voyez-vous, tantôt, je finissais ma préparation, puis il y a déjà une cinquantaine de fiches qui sont prêtes, et il y a 12 outils pratiques qui vont être véhiculés auprès des différentes instances. Mais il y a également, en parallèle, pour voir si on est bien, bien parti, bien aligné, 4 villes qui vont recevoir, qui actuellement sont en projet pilote. Alors, on parle de Danville en Estrie, qui réaménage un parc en milieu défavorisé. Mm-hmm. On parle de Deschambault-Grondines sur un plan d'action sur l'ensemble de leur parc. Saint-Anne-des-Monts en Gaspésie, un parc municipal avec une école à côté. Pointe-aux-Outardes avec un projet de revitalisation des infrastructures dans une école. Et en milieu urbain, Gatineau, plan de développement des espaces de jeu dans le secteur de Elmer, Trois-Rivières, nouveau parc de voisinage naturalisé, beaucoup, beaucoup de naturalisation de ce site-là. Belle-Oeil. Et là, on parle de démarches participatives. Quand je vous disais tantôt de comment on implique les citoyens dans l'élaboration d'un parc, ben là, c'est ce qu'on va faire comme démarche. Et il y a l'arrondissement antique Quartier-Ville qui fait une réappropriation d'un parc en particulier, tout le parcours Gouin, qui est un réseau linéaire de grands parcs. Comment est-ce qu'on peut le dynamiser là, au bord de la rivière des Prairies? Ça, c'est 8 projets qu'on suit en plus du développement du cadre conceptuel.
Et tout ça dans le but de rendre ces espaces-là aménagés, sécuritaires, pour faire davantage bouger les jeunes. Vous, Michel Gagné, qui êtes bien présent là, au sein de la ville de Lévis, est-ce que vous les voyez déjà, ces retombées, ces avantages-là? Vous me disiez, là, vous faites de la course à pied, vous vous promenez un peu dans votre ville. Qu'est-ce que vous observez?
Bien. Moi, ce que j'observe au niveau des choix de terrain qu'on a fait sur les dimensions, puis je pense, repréciser là, vraiment la façon d'aménager les jeux, on veut réaxer sur le jeu libre.
Mm-hmm.
On veut laisser dans nos parcs des espaces où on peut flâner, jouer au ballon, lever un cerf-volant, arriver et que ces gens-là puissent sociabiliser autour de ça, peuvent se rencontrer parce que le parc dans un quartier, c'est aussi un espace de vie. Ce que je note, écoutez, moi je me vire de bord, là, j'en ai un parc derrière moi, évidemment, il vient de commencer à pleuvoir, donc il y a moins de gens. Je vois souvent des gens en fin de journée qui arrivent avec les voitures et qui passent une heure, une demi-heure avec les enfants, venir faire bouger autour avant d'aller à la maison, en revenant de la garderie. Je vois souvent des gens où je traverse et je vais les voir, je vois que les familles se déplacent même dans les différents parcs. De là, l'importance de faire en sorte que les parcs ne soient pas tous similaires et donnent des possibilités différentes aux gens. Ils vont aller en voiture à un endroit, ils vont aller en vélo à un autre endroit. Je vois beaucoup de familles qui se déplacent. On a un réseau cyclable assez important. Je vois beaucoup de, particulièrement à cette période de cube avec Pierre Lavoie, le grand défi Pierre Lavoie, je vois beaucoup de familles ensemble là, qui se promènent. On voit aussi les garderies, je vous dis, en milieu familial, qui bien sûr ont des équipements qui sont propices à côté de leur demeure ou dans les cours, mais qui viennent également dans nos parcs. Là. Beaucoup de mobilité, beaucoup d'intérêt pour les gens. Écoutez, les nouveaux parcs, quand on l'a repris en 2011, les gens manifestaient, on avait un retard dans l'aménagement de ces parcs-là, et les gens se manifestaient beaucoup pour signifier l'importance de ces parcs-là.
Oui, parce que les gens ont des besoins, ils ont envie de sortir. On a parlé beaucoup des familles, Michel Gagné. Qu'en est-il des personnes âgées?
Les personnes âgées pratiquent beaucoup, je dirais, les activités encadrées du type vélo. Mm-hmm. Ça, on en voit beaucoup sur nos pistes cyclables. On a 15 parcours de marche également qu'ils fréquentent assez bien. Je les vois aussi également beaucoup au niveau des regroupements. On a beaucoup d'activités comme regroupées. Ça peut faire drôle de parler un peu de pétanque, mais recrudescence au niveau de ces groupes-là. Puis les gens jouent régulièrement dehors. Moi, je vous dirais que les retraités sur les pistes cyclables actuellement, l'été, on a des journées aussi fortes la semaine. On a une journée aussi forte la semaine qu'à la fin de semaine maintenant. Fait que moi, je vous dirais qu'ils sont très présents. Dans les petits parcs de voisinage, mais à ce moment-là, on parle de quartiers où il y a plus des jeunes familles. Là. On les voit également beaucoup dans nos parcs pour des activités culturelles, concerts de fin de semaine ou d'activités de semaine. On a moins, nous, dans la région de Québec, la réalité là, multiculturelle que je note des fois quand je vais à Montréal ou encore dans la région d'Ottawa où les communautés ont également beaucoup ils vont beaucoup dans les parcs, ils vont beaucoup faire des pique-niques la fin de semaine, des barbecues. Ça, c'est un autre élément dont j'ai pas parlé tantôt, puis qui est de plus en plus présent, là, le multiculturalisme, puis le jour, le plaisir que ces gens-là de communauté ont à utiliser les parcs. Là.
Oui, qui est un beau modèle pour nous, Québécois, de les voir aller, notamment à Montréal, bien sûr. Michel Gagné, pour en savoir davantage, www.loisirspublic.qc.ca. On aura plein d'informations en visitant ce site sur le projet Espace. Et puis, on suit vos différentes initiatives à travers les années jusqu'en 2016. Peut-être on peut mettre notre attention où, Michel Gagné, là, dans les prochains mois?
Bien, c'est ça que nous, de notre côté, on commence à avoir nos outils de plus en plus précis. Fait qu'on est beaucoup en campagne de sensibilisation lors des événements, que ce soit les différents colloques. Là, on sait que le colloque de nom des municipalités s'en vient, on va être présent. On était également la semaine dernière au niveau des familles, au niveau rural. Donc, on est à terminer nos outils, les diffuser de plus en plus. Mais moi, ce que je vous dirais, c'est que je vous invite à jeter un coup d'œil sur les parcs environnants.
Mm-hmm.
Dans les parcs qui sont autour de vous, constatez l'état, constatez les investissements qui ont été faits ou qui seraient à faire et peut-être interpeller les gens de vos différents milieux pour dire est-ce que vous êtes au courant de cette démarche-là d'espace et ou quelles sont vos orientations au niveau des parcs pour les prochaines années, pour les réseaux cyclables, pour qu'on ait les environnements favorables dont les gens ont besoin.
Mm-hmm.
Et ça veut dire que toute personne qui pourrait être interpellée pourrait être en contact avec les gens d'espace là, pour que nous fassions, je dirais, qu'on puisse on puisse diffuser un peu plus cette bonne information.
Oui.
Écoutez, nous, on a mis 1 million par année dans les dernières années, puis on voit l'impact sur la fréquentation puis la qualité. Puis quand on aménage, les gens s'approprient les parcs.
Oui.
Alors, ils les fréquentent de plus en plus, ils en sont fiers. Quand vous dites qu'il nous reste à faire beaucoup, c'est comment on les anime également.
Oui, eh bien ça, on pourra vous réinviter pour en reparler. Ça sera un grand plaisir. Michel Gagné, vous êtes chef du service des sports et du plein air pour la ville de Lévis. Merci beaucoup de nous rappeler que c'est notre responsabilité à tous, nos espaces publics. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635 et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_M.
François Lecault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes kinésiologue et là pour nous éclairer afin de trouver la meilleure chaussure de sport qui est adaptée, bien sûr, à notre réalité. On a parfois tendance à se compliquer la vie un petit peu, François, quand vient le temps de magasiner une chaussure de sport, surtout lorsque l'on connaît plus ou moins ça. Mais il y a une règle assez simple, je pense, à observer, c'est le confort en tout temps.
Exactement. On sous-estime cette composante-là quand on vient à choisir des chaussures dans différents types d'activités physiques, que ce soit des sports de raquettes, que ce soit la course à pied, pour faire de la danse aérobie, etc. Quand vient le temps de choisir une chaussure pour quelque activité que ce soit, quand on met le pied dedans, dès le début, on devrait se poser la question, est-ce que je suis confortable? On sous-estime cette composante-là dans le choix de n'importe quelle chaussure.
Mm-hmm. Pourquoi c'est important d'avoir une bonne chaussure? J'imagine que ça peut éviter certaines blessures. Quel type de blessure?
En fait, on doit voir la chaussure comme une extension du pied, sans nécessairement remplacer le pied, qui a des fonctions pas juste pour la mobilité, l'équilibre, etc., mais aussi pour les différents déplacements. La chaussure vient complémenter finalement le pied à travers les différentes activités et on sous-estime des fois aussi dans notre choix de chaussure le fait que si on n'a pas la bonne chaussure, on peut parfois avoir des blessures parce qu'on n'a pas bien choisi notre chaussure, soit parce qu'elle n'était pas confortable, ça cause de la friction, soit qu'on a choisi une chaussure qui n'est pas adaptée au type d'activité physique qu'on fait. Donc, de là l'importance de choisir une bonne chaussure.
Oui. D'ailleurs, quelques trucs peut-être selon le sport que l'on a choisi. Par exemple, si l'on fait de la course à pied, qu'est-ce que l'on devrait observer?
En fait, quand vient le temps, par exemple, de la course à pied, on doit se poser principalement 3 à 4 questions. Un, est-ce qu'on pratique déjà ce sport-là? Parce que selon l'expérience qu'on a et le vécu qu'on a dans n'importe quel type d'activité, donc maintenant, on parle de la course à pied, ça peut influencer nos choix. Ensuite, est-ce qu'on a déjà eu des blessures ou est-ce qu'on en a une présentement? Puis là, après, il faut savoir, est-ce que cette blessure-là ne serait pas causée par le type de chaussure qu'on a?
Mm-hmm.
Ensuite, notre niveau. Mais quand je dis niveau, c'est aussi, est-ce que je pratique la course à pied plus pour la mise en forme, pour une pratique régulière ou pour améliorer mes performances? Donc, ces 3-4 points-là vont mieux nous guider dans le choix de la chaussure.
François, lorsqu'on arrive en magasin, est-ce que l'on peut parler de ça au conseiller qui est là, vraiment de lui expliquer un petit peu notre pratique sportive et est-ce que la personne en place peut nous outiller, nous guider à travers le choix d'une chaussure?
Un des meilleurs conseils que je pourrais suggérer, c'est lorsque vous avez à choisir une chaussure, quand vous faites 3 fois et plus le même type d'activité. Ce serait bien d'aller dans un magasin qui est spécialisé, que ce soit un magasin spécialisé ou une boutique spécialisés dans l'activité qu'on pratique. Donc, que si c'est un sport de raquette, par exemple, allez dans une boutique spécialisée là-dedans. Mm-hmm. Si c'est de la randonnée que vous faites, même chose. Course à pied, même chose. Si vous allez des fois dans les grandes surfaces, ça se peut qu'il y ait des conseillers là qui soient formés adéquatement pour vous aider. Par contre, à certains moments donnés, ils n'auront pas un choix qui est assez grand. N'importe quelle boutique spécialisée, ça le dit, elle se spécialise dans donner une grande variété de choix à ses clients, va pouvoir encore mieux vous aiguiller de ce côté-là parce qu'ils vont tenir plusieurs marques, plusieurs modèles à l'intérieur de ces marques-là. Et la majorité du temps, les conseillers qui sont là pratiquent également l'activité.
Ouais, ben oui.
Et ça fait une très, très grande différence.
Je lisais, François Lecault, qu'il peut être bien, dans le magasin même, de faire quelques mouvements. Si, par exemple, on joue au basketball, de jouer un petit peu au basketball là, dans le magasin pour voir vraiment si la chaussure est à notre pied.
Tout à fait. En fait, un conseiller ou un vendeur qui vous donnerait pas la permission de le faire ne ferait pas bien son travail. Principalement à cause de la première question que vous m'avez posée, c'est-à-dire celle du confort. Si on ne peut pas pratiquer quelques mouvements à l'intérieur du magasin qui vous accueille pour vous conseiller, ben on fait déjà une erreur. J'irais même à dire portez-les pour plusieurs minutes dans certains cas, surtout si vous hésitez. Et finalement, lorsque vous hésitez entre deux ou trois marques, n'hésitez pas à mettre une chaussure de différents modèles ou différentes marques à chacun de vos pieds. Ça peut paraître anodin, mais on voit vraiment la différence quand on n'a pas la même marque ou le même modèle de chaussure dans un pied et dans l'autre. Puis après, pour être encore une fois certain, interchanger aussi. Mm-hmm. C'est là qu'on va voir là, la meilleure comparaison.
Et il est préférable, je pense, de magasiner en fin de journée. Pourquoi, François?
En fait, avec l'accumulation du temps dans la journée, des fois la position debout, etc., certaines personnes peuvent enfler un peu des pieds. Mm-hmm. Et si on enfle, pour certaines personnes qui enflent plus que la moyenne, ça peut peut-être influencer au niveau de la pointure, c'est-à-dire la longueur de la chaussure.
Oui.
Mais aussi, on oublie des fois la largeur, parce qu'il y a certaines compagnies de chaussures qui offrent aussi la possibilité de pas juste avoir des longueurs, mais aussi des largeurs. Fait que ça pourrait être une option à regarder.
Ah oui, c'est assez intéressant tout ça. François Lecault, j'aurais aimé avoir plus de temps avec vous. Malheureusement, ça file à la vitesse de l'éclair, mais ça sera un plaisir de vous reparler. Je rappelle, vous êtes kinésiologue. Également, vous travaillez auprès de la clinique Pivot Santé, une clinique d'entraînement spécialisée pour les gens de 50 ans et plus. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est pour ça que je souhaite vous reparler incessamment. www.pivotsanté.com. Merci beaucoup et puis bonne saison estivale à vous.
Merci beaucoup et restez bien chaussés. L'important, c'est d'avoir du plaisir à travers l'activité physique.
Merci, François Lecault. Au revoir.
Merci, au revoir.
Mathieu Tessier à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.